Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, dit Julien. Bonsoir, dit Daniel. À toutes et à tous, auditeurs, auditrices, chers. C'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes et on vous dit à tout de suite pour la suite. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Idée Noire, donc l'émission de la coordination des groupes anarchistes qui est au micro ce soir, donc de 20h à 21h. Et à l'accoutumée, on passe à quelques annonces, il n'y en a pas trop.
On commence par les annonces, ouais, on a sélectionné deux. Je démarre, tu fais la deuxième.
Allez,
donc c'est un rassemblement qui aura lieu ce samedi 22 octobre à 15h devant le palais de justice de Lyon, donc les quai du Rhône, là, qui est Romain Rolland, les 25, 26, 24, je ne sais plus, colonne. Le tribunal, donc c'est un rassemblement pour la libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah. Donc il y a un petit retour sur l'article associé, sur l'article qui est associé au rassemblement. Je vous le lis rapidement, donc pour si vous ne connaissez pas Georges Ibrahim Abdallah, donc c'est un militant progressiste libanais. Il s'est toujours battu contre l'occupation de son pays par les forces étrangères et en particulier israéliennes. Il s'est aussi distingué par son engagement pour la cause palestinienne ainsi que pour la fin de l'apartheid exercé par l'État sioniste et raciste. Il a été arrêté à Lyon le 24 octobre 1984, donc ça fait environ 32-33 ans. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la Cour d'assises spéciale de Lyon en 87 et ce pour complicité dans l'assassinat de deux diplomates en 82 à Paris. Lui furent aussi également attribués d'autres chefs d'inculpation comme d'être l'instigateur d'une série d'attentats qui ont été commis à Paris entre 85 et 86. Donc voilà, ce n'est qu'après sa condamnation que l'on apprendra donc que Georges Ibrahim Abdallah n'avait pas de lien avec les attentats dont on l'avait accusé. Mieux encore, Yves Bonnet, directeur général de la DST au moment des faits, a innocenté totalement Georges de ce qu'on lui a voulu mettre sur le dos et a dénoncé publiquement en 2012 le maintien scandaleux et anormal de sa détention. Donc à l'heure actuelle, il est toujours en prison, c'est donc sa 33e année de détention dans la prison de Lannemezan. Donc voilà, il a fait depuis, il a plus que purgé sa peine, pardon, puisque éligible à la libération conditionnelle depuis 1999. Il a déposé en sens plus de 9 demandes qui ont malheureusement lui ont toutes été refusées. Et donc voilà, donc il y a un collectif qui existe sur Lyon, et je crois qu'il y a peut-être Génération Palestine qui appelle aussi à ce rassemblement. Donc ça se passe le samedi 22 octobre 2016 à 15h devant le palais de justice. Qui est du Rhône, qui est Romain Rolland.
Voilà.
Et puis la deuxième petite annonce.
Alors voilà, donc ça va être un petit peu long, mais enfin, il est intéressant de prendre le temps pour tout dire sur cette annonce. On se souvient donc du 21 octobre 2010, pour certains et certaines, hein, ce qui s'était passé à Bellecour, ce qui a été appelé la prison de Bellecour. Donc là, c'était le 21 octobre 2010. Donc aujourd'hui, après déjà 6 ans, c'est le 6e anniversaire, déjà 6e anniversaire, et après 5 ans d'instruction, bientôt le procès. Alors il y a un point d'interrogation aussi sur ce texte. Alors est-ce qu'il va avoir lieu? On ne sait pas finalement, au bout du compte. Depuis octobre 2010, donc première garde à vue de masse, si on se rappelle bien, dans l'espace public. Hein, la place Bellecour avait été encerclée par les flics. Qui s'était pas gêné pour balancer des gaz, etc. C'était quand même assez sérieux, très sérieux même. Depuis, d'autres ont suivi. Alors, quelles analyses là-dessus? Quelles actions et quelles réactions? Évidemment, toujours avec un petit point d'interrogation. Après la clôture de l'instruction en juillet 2016 et à la veille de la décision du parquet sur l'opportunité d'un renvoi devant le tribunal, il est nécessaire de nous manifester publiquement. Alors, où en sommes-nous depuis la plainte en 2016? Où en sommes-nous de cette plainte en 2016? Alors, pour répondre à ces questions, le collectif, qui existe toujours du 21 octobre, organise 3 événements pour faire le point et le pont avec les répressions du mouvement contre la loi travail, donc juste avant les vacances. Le lundi, donc c'était lundi dernier, il y a eu une conférence de presse à 14h à la Bourse du Travail. Ce jeudi 20 octobre, donc demain, à 18h30, aura lieu une soirée débat à la Bourse du Travail de Lyon. Le vendredi 21 octobre 2016, toujours à partir de 19h, une soirée festive et informative au bar fédératif Les Clameurs, qui se trouve 23 rue d'Aguesseau à Lyon, dans le 7e arrondissement. Pour terminer sur cette information, je dirais que l'ouverture de l'instruction a permis des investigations, des demandes d'actes et l'audition par le juge des associations, syndicats et partis politiques. De même, pour la police, différents responsables de la gestion de l'ordre public ont été entendus, dont le DDSP, directeur départemental de la sécurité publique, qui semble assumer toute la responsabilité de l'opération, en reconnaissant le côté attentatoire aux libertés, mais en arguant sur le risque d'insurrection. Rien que ça. Bah alors, pourquoi pas? Après 5 ans d'instruction, aucun élément du dossier ne permet de dire que cette mesure aurait été proportionnée au risque encouru par la société. Partout en France, la police réprime durement les manifestations actuelles. Des plaintes sont en cours, des enquêtes administratives et judiciaires sont ouvertes suite à des violences policières où des manifestants et des manifestantes ont été très sérieusement blessés par des policiers et des policières. Obtiendrons-nous un procès qui mette en cause la police et l'État dans ce contexte d'état d'urgence et de répression des mouvements sociaux, où cette stratégie d'enfermement préventif de manifestants, de manifestantes tend à se développer? Comment s'organiser collectivement pour faire face à ce type de répression qui cherche à créer la division sur le terrain? Voilà, donc ça fera partie de ces rendez-vous que je rappelle, hein, jeudi 20 octobre à 18h30, soirée débat à la Bourse du Travail à Lyon. Et vendredi 21 octobre, à partir de 19h, soirée festive et informative au bar fédératif Les Clameurs, 23 rue d'Aguesseau à Lyon, dans le 7e. Des informations qu'on peut retrouver sur Rebellion, je pense aussi. Hein,
tout à fait.
Parce que c'est tiré de Rebellion. Voilà.
Carrément. Donc, du coup, on va enchaîner avec 2 petits reportages audio qui ont été faits du coup ce week-end. Le premier, alors, je ne sais pas dans quel ordre c'est exactement, donc on espérera que ce sera bien dans le bon ordre dans lequel je vous annonce. C'est déjà en route pratiquement. On attend un petit peu, hein, avant de lancer. Hein.
Oui.
Et donc du coup,
j'attends ton feu vert.
Ouais, ouais. Donc le premier, donc c'était ce qui s'est passé à la Part-Dieu, donc l'action qui avait été donc à la part. Enfin, on fera une petite critique du coup après derrière de ce rassemblement-là, oui. De la manière dont ça a été organisé.
Oui,
mais au départ, donc du coup, c'était en soutien avec les femmes de ménage des toilettes de la Part-Dieu. Donc du coup, la problématique était la suivante. Il y avait un appel donc à bloquer les toilettes et à faire un peu de bruit. C'était pour dire aussi que la société de nettoyage qui gère ça, Samsic, a divisé les effectifs de nettoyage des toilettes par 2. La quantité de travail, elle reste la même, même un peu plus, parce que du coup, le label a changé au niveau des toilettes. Du coup, quelques jours après les premières discussions par rapport aux conditions de travail, il y a une salariée syndiquée qui a été mise à pied pour être allée parler à ses collègues. Donc voilà, et donc il y a des demandes des salariés, donc le respect des droits syndicaux, le doublement des effectifs, le passage en CDI de tous les employés précaires, la prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage, et la mise en place progressive d'un 13e mois. Donc voilà, donc ça, c'était le rassemblement. On vous passera donc quelques extraits de ce qui s'est passé à la Part-Dieu. Vous verrez notamment que on doit faire beaucoup de progrès au niveau du champ. Et ensuite, on fera un petit retour. Et puis, on enchaînera. Du coup, on verra comment ça se passe. Soit on enchaînera directement aussi après avec le rassemblement de soutien face à la répression en Turquie. Notamment, c'était un appel syndical à la base, amené par la CGT Éducation, puis signé par d'autres syndicats par rapport au fait que la purge continue en Turquie, notamment, et aussi, pas surtout, mais aussi au niveau des enseignants, parce qu'il y a plus de dizaines de milliers de profs qui ont été suspendus et virés. Voilà, sur des fausses raisons. Ouais, Erdogan fait un peu ce qu'il veut là-bas maintenant. Donc voilà, donc ces 2 reportages audio sur ces 2 rassemblements de samedi après-midi. Et puis derrière, on fait un petit retour sur ça.
D'accord. Allez, c'est parti.
Ouais.
Avec les salariés, solidarité avec les travailleurs.
Donc désolé, petit problème technique, du coup on voulait d'abord faire un petit stop du coup avant le deuxième reportage audio. Du coup, il restait que quelques secondes, c'est pour ça que je te faisais des signes pour arrêter, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, pour refaire un petit retour sur ce rassemblement, qui était plutôt amusant d'ailleurs à faire, qui a failli mal se finir quand même avec les vigiles de la sécurité de la Part-Dieu, qui étaient très 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 nerveux, parce qu'ils sont pas trop habitués à mon avis à gérer ce genre de situation, parce que du coup l'action s'est située dans le centre commercial, au niveau zéro, au niveau des toilettes, à cause de plusieurs magasins. Donc du coup quand on est arrivé en masse, par petits groupes, puis après on s'est regroupé en masse un petit peu, on était 30-40, ça fait quand même un petit attroupement assez sympa. Donc du coup voilà, les vigiles ont vite paniqué, ils ont fait un cordon de sécurité pour nous séparer des gens qui faisaient leurs courses, les gens qui étaient quand même interpellés par ce qui passait, qui voulaient poser des questions, mais ils étaient vite renvoyés par la sécurité ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas avoir de contact avec les personnes autour. Ça s'est un peu frité sur la fin quand on est sorti du magasin, enfin du centre commercial. Donc voilà, alors après on voulait faire un petit retour quand même sur l'action en elle-même, parce que du coup quand on regardait du coup l'appel qui était du coup notamment sur Rébellion, hein, on trouvait ça assez sympa, donc une lutte de femmes de ménage voilà, qui est dans la galère, qui se font sanctionner pour rien, et qui voilà, pour des personnes qui gagnent la misère, voilà, et qui en demandent encore plus en gagnant un peu moins, donc du coup on s'est dit pourquoi pas, c'est bien sympa, l'appel a l'air bien. Pour nous, il y avait un lien direct avec la CNTSO, voilà, on pensait que c'était même la CNTSO qui organisait ça au niveau local, que c'était du coup les salariés qui étaient du coup à la base de tout ça, et que même si elles n'étaient pas forcément présentes sur le lieu du rassemblement, parce qu'elles avaient un peu peur pour leur emploi, on était là en solidarité, on trouvait le truc assez sympa. Et puis donc du coup, après, en arrivant du coup sur les lieux un peu avant, donc on tombe sur une personne qui nous donne toutes les consignes en fait, du coup, de ce qu'on doit faire.
Un briefing carrément
d'avant-action. Alors ce qui peut s'entendre éventuellement, voilà, parce que du coup, elle voulait vraiment pas que ça parte en sucette, parce que du coup, on voulait pas que les salariés aient des soucis, mais ça peut s'entendre. Mais tout le reste, du coup, avec distribution donc des chansons, distribution de plans, demander de garder le sourire, de ne pas être violent, de tout subir un petit peu, voilà, en se laissant faire pour pas qu'il y ait de conséquences après. Et puis quand on regarde le tract, en fait, tout en bas, on s'aperçoit du coup que l'adresse mail, ça ramène à un site qui s'appelle Projet React. Et là, du coup, on est un petit peu interloqué, parce que du coup, on dit qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, c'est pas la CNTSO qui organise, qu'est-ce que c'est un peu ce box ? Et donc, du coup, on est allé faire un tour un petit peu sur ce site pour savoir ce que c'est. Donc, c'est un réseau pour l'action collective transnationale, voilà, donc, qui est né en 2010. Alors je vous lis un peu le truc qu'il y a sur le site, hein. À partir d'une analyse partagée, les injustices sociales et environnementales ont pour cause principale l'asymétrie de pouvoir et la domination des intérêts des grandes entreprises sur ceux de la majorité des personnes, donc pourquoi pas. Et donc il vise à relever le pouvoir des personnes affectées par les abus des firmes multinationales. Donc là on se dit pourquoi pas, mais après là, le lien du coup avec l'action du coup de ce samedi, on voyait pas trop, parce qu'autant il y avait sur leur site des liens sur des attaques contre des multinationales dans les pays étrangers, donc sur les gens qui sont vraiment exploités là-bas par par ces firmes-là, donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, puis ils disent après que les militants du coup sont des tisseurs de liens à l'échelle locale, nationale et transnationale entre les personnes désireuses d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Puis là on se dit, mais du coup à quoi servent les syndicats du coup, si c'est des boîtes comme ça un peu extérieures qui interviennent là-dessus.
Sous-traitance.
Et sous-traitance, un petit peu, voilà, ça nous a fait penser un peu à ça. Donc il y a ce truc un petit peu d'action directe, non violente aussi. Alors ça, pourquoi pas aussi, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, même si en même temps, on ne va pas se taper dessus non plus gratos. Donc voilà, donc c'est pour replace l'individu dans une position d'être actif et non plus seulement de représenter passif. Voilà, elle apprend à réfléchir stratégiquement, à agir collectivement, mais ça, du coup, enfin, les syndicats le font déjà un petit peu, il me semble. Voilà, s'inscrire dans le monde, voilà, Et le dernier truc que j'avais vu, mais je ne sais plus où c'est, c'était du coup de faire de lien, voilà, le renforcement des organisations syndicales existantes et de faire le lien entre les différents syndicats. Donc voilà, on trouvait ça aussi un petit peu bizarre, du coup, parce que voilà, donc où se trouve du coup l'autonomie des luttes pour les salariés, où se trouve le boulot des syndicats là-dedans, même si du coup la CNTSO était associée, hein. Mais du coup, là, c'est quand même deux personnes de Paris qui sont descendues exprès pour l'action et qui ont animé un peu tout ça. Donc voilà, on trouvait ça du coup un peu bizarre. Le signifier un petit peu, parce qu'on a participé à l'action, parce qu'on trouvait du coup le truc plutôt bien, mais du coup voilà, on s'interroge après sur les modes d'action, en tout cas sur celle-ci quoi. Donc on restera vigilant et vigilante sur la suite. En tout cas, on continuera à suivre un petit peu ce qui se passe pour ces salariés là parce qu'à la base c'était ça l'intérêt, c'était de fait qu'il y ait des embauches, qu'il y ait des transformations de CDD en CDI, qu'il y ait des augmentations de salaire, qui est une réduction des cadences de boulot, etc., etc. Donc voilà.
Bah, les revendications.
Oui, ouais, c'est ce qu'on avait dit ouais, tout à l'heure. Voilà.
Tu les as données tout à l'heure. Donc
voilà.
Alors, il y aurait normalement, enfin, d'après ce qu'il y a eu après le rassemblement à l'extérieur du magasin, donc sur le trottoir, après les échauffourées, enfin, les petites empoignades qu'il y a eu, mais enfin, il n'y a pas eu de coup de donné, ni de blessé, ni quoi que ce soit, hein, on se rassure là-dessus. Il y a eu un débriefing de la part du délégué de la CNTSO sur le trottoir. Moi, je l'avais eu un petit peu avant et il m'a dit qu'il y aurait normalement le 21, donc c'est vendredi, une autre rencontre qui donc affinerait les revendications et voilà. Il y aurait un résultat
On
attend donc ce vendredi pour savoir ce qui s'est passé réellement et ce qui va se passer réellement.
Sur la forme, c'était un peu bizarre, mine de rien.
Ben voilà, ouais, sur cette forme, oui, effectivement, voilà. On est tous tombés de l'armoire, quoi, en fait, finalement, au bout du compte. Quelques heures après, pas tout de suite.
Voilà. Donc du coup, on va en passer du coup avec le deuxième petit reportage audio, du coup celui, donc le rassemblement contre la répression en Turquie.
C'est parti.
Depuis la mise en échec de l'AKP aux élections de juin 2015, le gouvernement turc a décidé de mener une répression sanglante contre la population kurde, les minorités alévies, arméniennes, roumes, et de criminaliser toute autre opposition. Syndicats, organisations de la gauche turque et kurde, démocrates, organisations féministes et LGBT, défenseurs et des droits de l'homme, avocats et avocates, universitaires pour la paix, journalistes. Dans ce contexte, la tentative inacceptable de coup d'État du 15 juillet 2016 est devenue un prétexte à la mise en œuvre d'une répression encore plus massive et violente, un véritable coup d'État civil. L'établissement de l'état d'urgence permet au Conseil des ministres, depuis le 20 juillet dernier, de gouverner par décret en suspendant l'obligation du respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Respect qui, soit dit en passant, était très formel parce que les tortures, la répression existent déjà de longue date. Après l'arrestation de plus de 50 000 fonctionnaires dans les premiers jours suivant la tentative du coup d'État, le gouvernement vient de destituer par décret plus de 11 301 enseignants et enseignantes, dont plus de 9 843 membres du syndicat Itimsen. Dans un souci de faire taire l'opposition politique dans les régions en guerre, 28 mairies, dont 24 villes kurdes, sont placées sous tutelle administrative. Aujourd'hui, nous dénonçons avec force la répression menée par le gouvernement turc, et nous appelons l'Union européenne et le gouvernement français à ne plus être complices de l'installation d'un régime autoritaire en Turquie. Nous appelons l'ensemble des forces progressistes à la solidarité avec les syndicalistes et progressistes de Turquie et du Kurdistan. Non au licenciement et à la suspension des enseignants et enseignantes syndicalistes des Itimsen. Solidarité syndicale internationale. À bas le régime fasciste en Turquie. Gouvernement français complice. Gouvernement français complice. Erdogan, assassin.
gouvernement français complice, Erdogan assassin, gouvernement français complice.
Comment la Turquie fasciste a dans la guerre le seul régime PISO au Krej, le seul kurde, Charmejar de Kim, le régime fasciste Turquie, le Hamberi Gale Kurdistan.
Fascisme, karşı, omuz omuza. Fascisme, karşı, omuz omuza. Fascisme, karşı, omuz omuza. Contre le fascisme, au coude à coude. Contre le fascisme, soyons au coude à coude. Contre le fascisme.
Nous, la coordination des groupes anarchistes, tenions une nouvelle fois à rappeler notre solidarité totale avec nos camarades syndicalistes, progressistes, féministes et LGBT, ainsi qu'avec la lutte des peuples kurdes, alévis, arméniens, rums et plus globalement de tous les peuples opprimés. Face à la montée du fascisme, en Turquie ou ailleurs, partout nous devons soutenir la résistance populaire.
Donc voilà pour ce petit reportage audio qui était beaucoup moins bien monté que le premier, mais bon, ça c'est la vie. Donc voilà, pour dire voilà, que sur ce rassemblement, alors c'est toujours un peu bizarre, vu ce qui se passe en Turquie et la réponse qu'il peut y avoir à l'étranger, et notamment en France, ça reste toujours assez bas par rapport à ce qui se passe là-bas. Il y a eu 2-3 tentatives avant, là, une marche au flambeau, mais qui avait été annoncée un petit peu à l'arrache, où il n'y a pas eu beaucoup de monde du coup. Avant aussi, il y avait eu un rassemblement. Enfin, du coup, c'était un peu compliqué. Là aussi, alors il y avait eu la voie syndicale qui avait été utilisée. Alors, ça a un peu fonctionné, mais bon, il n'y avait pas foule non plus sur ce rassemblement. Et du coup, c'est bien dommage parce que...
C'était une cinquantaine de personnes.
Voilà, ouais, ça mériterait beaucoup mieux. Voilà, donc on espère par contre que c'est une base pour pourquoi pas repartir sur d'autres choses par la suite. On espère en tout cas. En tout cas, c'était bien caroulé par les keufs, hein, quand même. Voilà, il y a quand même beaucoup de keufs par rapport au nombre de manifestants, manifestants, parce que ça restait un rassemblement, on n'a pas bougé. Hein. Donc voilà, devant le consulat de Turquie, ils avaient pensé peut-être qu'on allait l'attaquer. Il est quand même au troisième ou au quatrième étage, je crois, ce consulat. Et il faudrait un petit peu quand même.
Là où il y avait la grosse caméra.
Exactement. Donc voilà, donc on espère qu'il y en aura d'autres derrière ce moment, qu'il y aura plus de monde, parce que la situation là-bas mérite vraiment beaucoup plus de mobilisation en France et notamment à Lyon. Donc voilà, on va pouvoir faire une première petite pause musicale. On a déjà bien avancé dans l'émission. Hein.
Ah oui, hein, ça va vite. Hein. Donc on va écouter Ridan encore une fois, avec la comédie humaine que j'ai déjà passée, mais enfin elle était intéressante.
Dites-moi, mon bon seigneur, ne serait-il possible de voir bien au-delà de la limite de ces champs où l'on cultive le mépris, la haine entre les gens, pendant que vous dormez sur ces coussins gonflés d'argent? Ne comprenez-vous pas, nous ne sommes point différents, nous aimerions tout simplement nourrir nos enfants. Nous n'avons ni les biens, ni terre, ni même coussins que vous offrez si courtoisement aux tendres courtisanes. Je blâme votre honneur, tout comme celui de vos descendants, qui dans la file d'attente n'hésite pas à passer devant, le torse bombé d'orgueil, les poumons vides d'inspiration, à l'image d'un bon père qui exaspère tous ces millions de villes affamées qui jurent de vivre comme des damnés et qui pour eux sont prêts à tout pour que naisse la révolution. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon seigneur, entendez-vous la rage qui fait trembler la France et les pavés sur votre passage? Elle gronde les ruelles, les rumeurs se propagent, on brûle les calèches et le lion sort de sa cage. Soutenu par ses penseurs, d'insouciants révoltés, au salon parisien, l'absinthe a remplacé le thé, rendant la foule si ivre de toutes les libertés. L'individu est né par la force de son poignet. Qu'importe les barricades, le peuple a décidé. Les nuits seront terreurs jusqu'à ce que l'homme trouve dignité. On arrache les symboles qui brillent comme une idole, qui trône sur la basse-cour rendant ces pauvres âmes si folles, qui rêvent d'un autre monde plus juste et plus honnête qu'une simple fête de roi où l'on partage la galette. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables à la fontaine. Sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine. Dites-moi mon bon seigneur, entendez-vous la fin du règne féodal qui plane comme un chant? Le peuple a fait serment, pour vous les pas perdus. D'un revers de la paume, la France a su reprendre son dû. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces combats d'antan, de ces belles déclarations que l'on souille à chaque instant? Les rôles n'ont pas changé, en quelques décennies, la valeur de la vie s'aligne toujours sur le trottoir. Les gens n'ont-ils plus faim? Ont-ils un lit le soir? Mais qui donc joue la comédie sur le dos de mon histoire? Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables à la fontaine. Sur les bords de la Seine se joue la comédie humaine.
Voilà, on est de retour du coup sur Radio Canu avec l'émission des militants militantes de la coordination des groupes anarchistes Idées Noires. Et on va passer à 20h27 sur l'horloge de Radio Canu à un premier jet de lutte sociale.
Quelle précision!
Tout à fait.
Bien, on va commencer par le grand moment de cette semaine, c'est-à-dire c'est le rassemblement de soutien qui a lieu en ce moment même à Amiens, dans la Somme, à l'initiative de la CGT Goodyear d'Amiens Nord, pour donc aujourd'hui et demain, je le disais, le 19 et le 20 octobre. Mais tout d'abord, j'ai bien envie de revenir, et je vous le propose, sur un peu l'historique de cette affaire, qui date de quand même assez loin, et au départ, c'était pas que Goodyear, c'était Goodyear, Dunlop, Tyrès, France. C'est-à-dire que ces deux sociétés Dunlop, qui est un fabricant de pneus comme Goodyear, occupait donc une zone industrielle sud en ce qui concerne Dunlop et la zone industrielle nord en ce qui concerne Goodyear. Alors voilà, donc c'est d'abord Goodyear, Dunlop, Tyrès France qui a été sauvé de la catastrophe, on va dire, en 2007 suite aux accords syndicaux des syndicats et de la direction. Que le site a été maintenu, hein, il y avait 1000 salariés quand même, les accords sur une nouvelle organisation du travail, ce qui avait été proposé par la direction, créer un site moderne, compétitif, concurrentiel, des plus grandes marques de fabrication de pneus pour tout véhicule, hein, je citerai entre autres Michelin par exemple, hein, comme concurrent. Donc la nouvelle organisation parle, ou parlait du moins à cette époque, du 4 x 8 heures, monstrueux, 4 fois 8 heures, accord de compétitivité pour abaisser les coûts de 20%. Il fallait abaisser les coûts de 20%. Donc en contrepartie, pour les salariés, ben, c'était une hausse sur les salaires, une prime, enfin bref, une carotte quoi. Le clivage entre la zone industrielle sud et la zone industrielle nord, donc entre Dunlop et entre Goodyear, eh bien, elle a eu lieu. Le site sud est modernisé pour 50, à hauteur de 50 millions pour le pneu de tourisme, qui représente une valeur ajoutée quand même plus succulente que le reste. Par contre, pour le nord, pour la zone industrielle nord, c'est des pertes à hauteur de 61 millions en 2011, sur le pneu tourisme notamment. Alors, bagarre syndicale quand même, parce qu'il faut signaler qu'il y a eu une bagarre syndicale avec la CFDT notamment, qui s'est bien encore montrée à cette époque, avec des reproches à la CGT de porter, donc ils accusaient la CGT de la responsabilité de la fermeture, de la déchéance en quelque sorte de la zone industrielle nord. Alors la CGT, qui est majoritaire dans le secteur nord, en s'opposant donc, quand elle s'est opposée au rachat par, on se souvient de ce fameux monsieur Titan, enfin de la société Titan, ouais, qui est un groupe américain. Pour le pneu agraire, et son patron et ses propos envers les travailleurs de, oui, de la CGT sur l'atelier. Ouais, enfin, donc, voilà, je ne les ai pas notés, mais enfin, non, mais c'était assez odieux. Ouais, quoi. Ouais. Donc, parole, je dirais là-dessus, parole de. J'ai fait un peu concis hein, quand même, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus long que ça, beaucoup plus précis quand même. Et je vais finir par ces paroles donc, d'un délégué de la CFDT. Je le cite, donc ouvrez les guillemets, nous serons solidaires, mais pas dans la grève. grève. Voilà. Il faut continuer à produire, donc en 4 fois 8, hein, puisque c'est ça qu'ils ont accepté hein, sur le Sud, on va dire. C'est une bagarre entre le Sud et le Nord, un peu comme la guerre de sécession, quoi, en fait. En moins grave, quand même, hein, en moins grave. Donc je continue à le citer. Il faut continuer donc à produire au vu de l'industrie française et européenne. Il est impossible de dire où nous serons dans 2 ans. Eh ben c'est clair maintenant, dans 2 ans, eh ben ils sont au tribunal, hein, les Camaro, là. Hein. Donc voilà, pour 8 cégétistes. Alors revenons au jour d'aujourd'hui, donc en ce 19 et 20 octobre. Donc c'est un, je le disais tout à l'heure, c'est à l'appel de la CGT, c'est un mouvement de solidarité nationale lancé par le syndicat CGT. Préavis de grève ont été déposés pour des manifestations, pour soutenir les travailleurs de Goodyear, obtenir la relaxe des 8 ex-Goodyear. Ils avaient été punis de 24 mois de prison, dont 9 fermes dans un premier temps, pour séquestration de cadres. Alors ces deux personnes, deux cadres de l'entreprise, en janvier 2014, qui avaient été retenus dans leur bureau pour une trentaine d'heures. Donc français, il y a eu un procès en appel, et ce procès en appel, donc c'était aujourd'hui l'appel, pour les 8, pour contrer donc cette sentence grave. Grave sentence, qui contient en même temps 5 années de mise à l'épreuve aussi, il faut le dire. Hein.
Oui, il y a d'autres choses qui se rajoutent toujours aux condamnations. Ouais.
Voilà. 1250 salariés, pour revenir donc à l'historique aussi un peu, 1250 salariés à l'époque, hein, jetés, c'est un bilan en fait que je fais là. Il y a eu 1143 licenciés, 12 décès dû à des maladies, dont 3 suicides quand même. Il faut aussi se rappeler ça. Et sans compter, bien sûr, l'impact sur les emplois des sous-traitants, ce qu'on appelle les emplois indirects. Seulement une centaine d'ex-Goodyear ont retrouvé un CDI, hein, c'est toujours dans le bilan, ça, quand même, hein, de la suite hein, de cette histoire. Une centaine, donc, qui ont retrouvé un emploi en CDI. C'était des chiffres de janvier 2016. Hein. Les commentaires, également, sur les conditions de travail sont aussi bien gratinés, puisque le 4x8 en question, là, bah, c'est une combine qui a été bien taillée pour certains analystes, hein, on va dire, pour certains, pour amener la responsabilité de la fermeture sur les salariés. Donc cégétistes. Alors en chiffres plus proches dans les dates, il y a 700 actuellement, il y a 700 personnes qui pointeraient à Pôle emploi des suites hein, du licenciement. Quand on déduit évidemment les quelques CDI qui ont été gagnés dans d'autres entreprises, des quelques CDD, des départs en retraite évidemment, et puis d'autres aussi qui se sont crus finalement de devenir patrons puisqu'ils ont créé leur propre entreprise. Donc on va voir dans quelle situation ils vont se mettre maintenant après ça. Donc il y a d'autres affres aussi de cette lutte. Par exemple, se présenter comme étant un ex-Goodyear sur une place, oui, sur un emploi, eh ben, ça n'engage pas du tout l'employeur à...
Ça les fait suer un peu peut-être.
À quoi?
Ils ont peur d'être enfermés quelque part.
Oui, ça les engage pas évidemment à embaucher des ex-Goodyear. Voilà, c'est pas fini l'affaire. Alors pour juste faire un petit point sur cette affaire, pour en terminer et attaquer d'autres luttes, eh bien le cycle, enfin le fameux 4x8 heures. C'est terrible ce truc-là. Donc c'est un cycle qui est basé sur 4 équipes, selon un rythme propre, donc là à Goodyear, enfin à Goodyear quoi en fait, hein, à Dunlop Goodyear en fait, puisque Dunlop est toujours sur place. C'est peut-être valable aussi pour d'autres entreprises hein, qui utilisent ce système. Hein. Alors, il y a 2 jours, on est deux jours du matin, on est deux jours à travailler du matin, 2 jours à travailler de l'après-midi, et 2 jours à travailler de nuit, puis 2 jours de repos, et ainsi de suite, et on recommence, et ainsi de suite. Et cela, toute l'année, le week-end, les jours fériés inclus. Voilà. Alors, vous imaginez un petit peu la vie d'une personne, d'un travailleur dans ces conditions-là. En équivalence hebdomadaire du cycle, c'est de 42 heures en fait, et par semaine pour des postes de 8 heures et 44,6 heures pour des postes de 8h30. Là, ceux qui aiment les chiffres, ils pourront toujours essayer de calculer, voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je ne fais que donner quelques informations. Je n'ai pas fait tous les calculs. Ouais. Voilà, on va revenir sur d'autres luttes. Ma foi, il y en a quand même pas mal encore. Par exemple, dans l'Ain, avec la Côtière, donc dans le département de l'Ain, le 4 octobre, avec un rassemblement des salariés, une centaine de personnes, qui se sont rassemblées sur le site ABB. C'est une entreprise qui fait dans l'énergie, production d'énergie, et dans le ferroviaire. Ça s'est fait à Montluel, donc au siège de la société ABB, pour dénoncer les plans de suppression d'emplois en cours à la Côtière et dans le département de l'Ain. Par exemple, Philips, la grande entreprise Philips, 142 postes donc vont disparaître sur Miribel. ArcelorMittal supprime et revend sa filiale Solustil, qui fait dans la tôlerie, à un groupe sous-traitant. ABB eux-mêmes donc réorganise en supprimant 25 emplois. Toré, qui fait dans la matière plastique, le film plastique, et bien des suppressions de postes, une réorganisation tout en exigeant une hausse de la productivité. Pour mettre la colère, j'ajouterais que ces entreprises ou filiales sont pleines de pognon, réduisent d'un côté donc l'effectif, gain sur la masse salariale évidemment, et augmentent la productivité de l'autre, rentabilité. De plus, elles ont empoché le CICE, voire le CIR. Le CIR, c'est le crédit d'impôt recherche. Et voilà, et l'affaire est bâclée. Corbeil-Essonnes maintenant, alors là c'est tout autre chose. Donc qui dit Corbeil-Essonnes, pense tout de suite Dassault. Serge Dassault, c'est tout juste, vous avez raison, mais en fait là, ce n'est pas les gros navires qui sont en question, mais la fondation Serge Dassault. Au 7 octobre, une grève mijotait pour arriver à quel point dénoncer les conditions de travail. Voilà le but. La fondation est un établissement qui accueille des adultes handicapés mentaux. Le mécontentement donc est porté par la CGT, la CFDT et Sud Santé, et qui porte sur plusieurs points. La mise en place de l'expertise sur les risques psychosociaux, la suppression du logiciel Octim relatif à l'organisation de travail, enfin du temps de travail. Et il n'y a pas que ça. Il et elle donc exigent le respect des lois de 2002 et de 2005. Désolé, je ne suis pas allé rechercher quel était le contenu de ces lois.
C'est un peu long. Hein.
Oui. Le retrait, ils exigent également le retrait des sanctions abusives envers les salariés, le respect de l'usage prévu des caméras en vertu des principes de la CNIL. Et puis voilà, donc ils demandent également, c'est pas fini, concertation avec les équipes éducatives, dialogue social, enfin tout ça fait suite à une première grève qui a eu lieu en février 2016, une importante mobilisation des salariés suite à des inquiétudes liées à l'accueil des résidents et des résidentes. Donc il fallait agir et vite, donc c'est ce qu'ils ont fait, donc ça sera encore à suivre, voilà, pour ce qui est des luttes sociales de ce premier volet.
Ça marche. Je ne sais plus si on faisait une pause ou si on enchaînait directement.
Si tu as un petit quelque chose à dire, le temps que je mette la deuxième musique, voilà, c'est fait.
Si c'est fait, je dis rien alors.
Pardon, je me suis trompé, voilà. ce soir, attention, on est énervé. Musique alors.
Tout de suite alors. Oui.
Allez, c'est on parti. Va écouter Ridan encore une fois avec Madame la République cette fois. Hein.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes et républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette pioule, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Bonsoir, bonsoir et rebonsoir, toutes sortes de choses. Vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va parler un peu de Calais et des migrants, immigrantes, etc.
Ouais, donc voilà, donc on va vous lire un petit communiqué du coup de la fédérale de la CGA qui a pour titre à Calais et partout ailleurs, solidarité avec les migrantes et les migrants. Non au démantèlement de la jungle de Calais. L'État français s'apprête à démanteler ce qu'il appelle entre guillemets la jungle de Calais. En fait, des habitations de fortune où vivent environ 7000 migrantes et migrants qui souhaitent rejoindre l'Angleterre. Les associations humanitaires et ou travaillant sur le droit des migrantes et des migrants comme le Gisti, je ne sais pas comment on dit, ont déposé un référé liberté contre ce démantèlement ce 12 octobre 2016. Ce démantèlement, comme celui du centre de Sangatte en 2002 ou celui de la partie sud de la jungle, toujours entre guillemets, de Calais, au mois de mars dernier, ne constitue évidemment pas une solution. Le flux de personnes qui fuient la guerre, la misère, les inégalités, les persécutions, les régimes autoritaires ne se tarira pas en tentant de le disperser ou de l'invisibiliser. En rendant les conditions d'accueil et de régularisation toujours plus difficiles, les gouvernements ne font qu'aggraver la situation sanitaire et sociale des migrantes et des migrants. Les familles vont être déplacées, les quelques lieux de socialisation que les habitantes et habitants ont construits pour recréer une vie sociale à travers des cafés, lieux de culte, écoles, théâtres, etc. vont être rasés. Déplacer de façon forcée les migrantes et les migrants à travers la France est en soi violent. Les mauvaises conditions de vie dans les CAO, centres d'accueil et d'orientation, constituent souvent une violence surajoutée. Donc le démantèlement de la jungle de Calais s'inscrit dans une démarche électoraliste et populiste qui criminalise encore et toujours les migrantes et les migrants. Ceux-ci et celles-ci ne sont pourtant pas les responsables des lois antisociales, des inégalités économiques et sociales, du chômage, de la précarité, des guerres, etc. Ce sont au contraire les premières victimes d'un système que nous subissons nous aussi. C'est donc au titre de la solidarité évidente avec des personnes contraintes à la souffrance et à la précarité, mais aussi de la solidarité internationale entre exploités que nous soutenons les migrantes et les migrants. Nous dénonçons donc le démantèlement de cette fameuse jungle de Calais. Nous appelons à la solidarité avec les migrantes et migrants de Calais. Nous dénonçons par avance la criminalisation des migrantes et des migrants et de leur soutien qui résisteront à ce démantèlement. Le gouvernement cherche à détourner la colère sociale sur les migrantes et les migrants. Il continue ainsi, comme la quasi-totalité de l'échiquier politicien, de dérouler le tapis rouge à tous les discours racistes. Le démantèlement de la jungle, toujours entre guillemets, hein, donne l'opportunité aux groupes fascistes de mener des campagnes contre la entre guillemets, fixation de centaines de Calais à travers le territoire français. La campagne publicitaire initiée par le maire d'extrême droite Robert Ménard qui affiche à Béziers « J'ouvre les guillemets, l'État nous les impose, ça y est, ils arrivent, trois petits points, les migrants dans notre centre-ville », fermez les guillemets, est à ce titre tristement exemplaire. Les groupes identitaires multiplient les actions contre les CADA, centres d'accueil aux demandeurs d'asile. et ou les CAO, pardon. Plus inquiétant encore, plusieurs municipalités comme celle de Saint-Honoré-les-Bains se sont prononcées contre l'accueil de migrantes et de migrants sur leur commune. Le 8 octobre, plusieurs manifestations contre l'accueil des migrantes et migrants se sont déroulées à l'appel de groupes fascistes ou et des municipalités récalcitrantes à les accueillir. Certains rassemblements initiés par des groupuscules fascistes ont réuni relativement peu de monde et ont été contrés par des contre-rassemblements plus importants, comme par exemple à Montpellier. En revanche, et cela doit nous alerter, le rapport de force a parfois été inverse quand les appels à manifester provenaient de municipalités comme à Pierrefeu dans le Var, partout. Nous devons résister aux discours et pratiques racistes tout en construisant la solidarité avec les migrantes et les migrants. Plus globalement, la coordination des groupes anarchistes lutte pour la régularisation de toutes les personnes sans papier, le renforcement du droit d'asile, la libre circulation et installation des personnes et l'abolition des frontières. Nous continuerons d'apporter notre soutien à toutes ceux et toutes celles qui luttent pour pouvoir vivre ici ou se déplacer dans le pays de leur choix. Nous ne déconnectons pas ces revendications du combat pour l'égalité économique et sociale. Voici pour ce communiqué donc, du coup, de la CGA qui date du 16 octobre 2016. Et puis pour faire un petit point un peu ce qui se passe partout en France, là, on en parlait un peu dans le communiqué, mais voilà, à Paris, il y a eu le futur centre d'accueil pour SDF du 16e arrondissement qui a été incendié. Voilà, donc hein, c'est la municipalité de, enfin, où il y a le député Claude Goasguen de DLR, voilà, qui avait fait des tribunes assez, qui avait mis le feu, en fait, en gros, très clairement, par la parole, sur l'accueil des migrants et des migrantes. C'est un quartier assez chicot, sans doute, il y avait eu
16e, oui.
Manipulation de la population pour voilà, éviter qu'il y ait des SDF, vous imaginez, dans leur quartier. Bah, du coup, ça a marché. Hein. Il y a eu, du coup, une tentative d'incendie, alors, heureusement, qui n'a pas été très grave, il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu très peu de dommages matériels, mais quand même. Des coups de feu contre un futur centre d'accueil de migrants en Isère, à la Chevrotine. À Saint-Brévin, coup de feu sur le futur centre d'accueil de migrants et migrants. En Gironde, incendie volontaire contre un futur centre d'accueil pour migrants. Un futur centre d'accueil pour migrants incendié dans l'Essonne, par exemple, ça s'en est déjà parlé, désolé. Et plusieurs manifestations donc, organisées contre l'accueil des migrants dans des communes françaises. Donc voilà un peu ce qui se passe. Alors on n'est pas encore à la hauteur de l'Allemagne, où il y avait des incendies à répétition par dizaines, voire par centaines. Des agressions aussi, mais voilà, mais ça commence à s'agiter un petit peu. On va surveiller un peu la situation du coup à Lyon notamment. Il y a 70 migrants qui sont attendus du coup à Villeurbanne très prochainement, voilà, par un centre d'accueil qui accueille déjà des personnes, des réfugiés. Donc voilà, on espère que ça se passera le mieux possible. Vous avez sûrement entendu aussi, bah, on parlait dans le communiqué de la CGA là, des affiches honteuses et insultante et violente du maire Ménard à Béziers. Et ben, il a essayé de faire encore plus fort hein, pour se faire un petit coup de pub de nouveau, hein, parce qu'il a du coup fait voter par son conseil municipal, bon, qui est FAF à majorité, hein, de toute manière, contre du coup, l'accueil d'un nouveau centre d'accueil à Béziers. Et il a fait voter aussi du coup, un référendum du coup, auprès de sa population pour que la population se prononce. Tout en sachant que c'est un gros coup de pub, hein, parce que du coup, comme il a été dit dans certains reportages, c'est pas la mairie qui a le pouvoir là-dessus, hein, c'est la préfecture. Et à un moment donné, si la préfecture dit qu'il faut le faire, bah, il faut le faire, autrement on est hors la loi. Donc, ce qui veut dire que même si le référendum et la population se prononce contre l'accueil de ce centre-là, bah, de toute manière, ça pourrait être invalidé de manière administrative. Donc voilà, mais c'est encore une fois pour projeter un peu la lumière sur sa mairie. Ouais, il y a eu quand même des altercations, hein, parce que du coup, il y avait une manifestation du coup, devant la mairie, appelée par des associations. Ils ont réussi à rentrer un peu de force dans le conseil municipal et à foutre un peu le bazar, ce qui était plutôt rigolo à entendre. Voilà, de faire traiter de facho un peu tout ce conseil municipal, et notamment le maire. Du coup, ça a été par contre assez violemment réprimé. Hein. Il y a les images qui tournent un peu sur le net, hein, une évacuation très très féroce de la part de la police municipale épaulée par la police nationale. Voilà, on ne sait pas encore s'il y a eu des plaintes. Les plaintes sont souvent du coup du côté des conseillers municipaux ou des policiers. Enfin, on va suivre ça de près aussi. En tout cas, on est solidaires, ça ne va pas être facile de militer là-bas, hein, que ce soit au niveau syndical, associatif, à Béziers, mais voilà, on envoie le plus de force possible en espérant pouvoir, pourquoi pas, se mobiliser un jour là-bas ensemble. Voilà, puis une bonne nouvelle pour une fois, voilà, parce que du coup, il y a des associations alors que dont ce n'est pas l'habitude, parce que les associations dont on parle des fois, notamment à Paris, qui ont un comportement assez ignoble auprès des camarades, notamment là-bas, puis auprès des personnes accueillies, qui n'hésitent pas à faire la police, en fait, à la place de la police. Et bien là, c'est un peu tout autre, parce que des associations ont ouvert illégalement un lieu pour les réfugiés, donc ça, assez bien pour être souligné, contre l'avis de la région PACA, une belle région très ouverte. Un collectif d'associations accueille depuis donc, ce lundi à Saint-Dalmas-de-Tende des réfugiés érythréens qui franchissent la frontière italienne. Il faut savoir que du coup, on avait beaucoup parlé de Vintimille, hein, la frontière franco-italienne, voilà, qui était coupée. Il y a énormément de monde qui arrive en Italie, hein, par bateau. Voilà. Et tout ce monde-là est basé là-bas et que du coup, la France et l'Italie, enfin la France plutôt, ferme la frontière du coup, pour éviter d'accueillir du monde. Donc là, c'est des personnes qui arrivent à passer à Traves. Et donc, dans cette cinquantaine de réfugiés, donc, sont hébergés du coup là-bas Cuba dans un lieu d'accueil humanitaire de transit, établi donc par des assos, mais dont le département des Alpes-Maritimes et la région PACA ont aussitôt exigé le démantèlement sans délai. Voilà, sans réponse des pouvoirs publics, gouvernement, préfecture et conseil départemental qui fuient leurs responsabilités. Donc le collectif qui s'appelle Solidarité Roya Frontière franco-italienne a pris la décision d'ouvrir un lieu d'accueil humanitaire de transit. Voilà, donc c'est CIMAD, LDH, MRAP, ADN, Habitat et Citoyenneté. Voilà, une petite quinzaine de gendarmes ont pris position dans la journée en attente d'instruction. Voilà, donc c'est en fait c'est un bâtiment SNCF qui est squatté, donc c'est plutôt agréable comme genre de nouvelles. Si même les assos un peu institutionnels se mettent à rentrer dans l'illégalisme là-dedans, c'est plutôt intéressant parce que vu le nombre de personnes qui a hébergé, et on arrive en plus sur une période hivernale où il va faire froid, il y a beaucoup de monde dans la rue, que ce soit des réfugiés ou pas, donc il va bien falloir essayer de les loger. Puis du coup, je fais un petit, je voulais pas parler de ça, mais du coup, je vais en parler. On fait aussi, si vous vous intéressez un peu à tout ça, normalement, il y a une interview très intéressante de deux travailleurs sociaux qui a été faite par le site nébuleuse.info sur lequel vous pouvez aller. Voilà, sur leurs conditions de travail, sur les limites de leur travail aussi, qui est institutionnel, mais du coup, on n'est pas forcément dans cette dynamique-là, dans ce travail-là. C'est assez intéressant, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. J'enchaîne encore un petit peu, ouais, de toute manière.
Bah, je t'en prie, si tu...
Ouais, j'ai un petit texte voilà, que j'ai retrouvé, bon, qui date de 2012, mais du coup, comme on est le... Comme lundi, c'était le 17 octobre 61, c'est toujours bien de faire un petit rappel historique de ce qui est passé à Paris. Voilà, donc c'est le témoignage de Hossine Hakem, donc qui date de 2012, mais bon, du coup, qui est toujours malheureusement d'actualité. Hein. Voilà, qui était parti manifester à Paris et qui fut pris au piège avec ses compagnons au pont de Neuilly, où les CRS matraquèrent, tuèrent et noyèrent les Algériens. Donc 50 ans après, donc, il a livré un témoignage, donc je vous redis, c'était il y a 4 ans. Donc je vous le lis. Hein. Ce 17 octobre 61, donc Hossine Hakem, à peine 18 ans, est déterminé, comme de nombreux autres ouvriers du foyer de travailleurs immigrés où il loge à Nanterre, à répondre à l'appel à manifester lancé par le FLN, dont il est membre. Le jeune homme travaille à l'usine Milia Frères de fabrication de pâtes alimentaires. La décision des autorités de soumettre les Algériens à un couvre-feu est vécue comme une humiliation supplémentaire. Donc là, on le cite. « Nous étions victimes d'une certaine ségrégation », raconte-t-il. « Si le couvre-feu s'était appliqué à tous, ma foi, nous n'aurions pas protesté, mais l'imposer aux seuls Algériens, ce n'était pas tolérable. » La mesure, en outre, pose de sérieux problèmes aux ouvriers immigrés travaillant pour bon nombre d'entre eux en 3-8. Les Algériens étaient tenus de circuler deux jours comme de nuit. Certains quittaient le travail ou le rejoignaient au beau milieu de la nuit. Donc ce jour-là, rendez-vous est donc donné à la place de l'Étoile. Les instructions du FLN sont claires. La manifestation doit revêtir un caractère pacifique. Et là, on le cite. Il nous était strictement interdit de porter des armes, même des armes blanches, insiste Hossine. Il était impensable que nous soyons tenus pour responsables du moindre débordement. D'ailleurs, le FLN donne la consigne d'aller manifester en famille, avec femmes et enfants. On le recite. Malheureusement, poursuit-il, les événements ont pris une tournure inattendue. La police a dressé des barrages partout autour de la capitale pour empêcher les manifestants de rejoindre le lieu du rendez-vous. Le groupe avec lequel j'étais parti a été bloqué au pont de Neuilly par un imposant cordon de CRS. Là, ils ont sévi de manière sauvage. C'était la terreur, ils n'ont pas hésité à charger, ils se sont occupés de nous avec des manches de pioche. Puis des coups de feu ont été tirés, il y a eu des morts, je ne saurais pas dire combien, c'était une telle confusion. Après une heure d'échauffourée, nous nous sommes défendus comme nous pouvions à main nue. Certains d'entre nous ont été brutalement chargés dans des fourgons. Nous avions vu des CRS pousser des hommes dans le fleuve. Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai échappé à cela et je n'ai pas été jeté dans la Seine. Ce n'est que quelques jours plus tard, après avoir été relâché, que j'ai su que des centaines d'Algériens avaient été assassinés ainsi. Après son interpellation, Hossine est conduit au commissariat de Puteaux, où il passe la nuit avec ses compagnons d'infortune, puis ils sont transférés au palais des sports à la porte de Versailles. Les prisons étaient pleines, ils ne savaient pas quoi faire de nous, ils ont donc parqué les Algériens là-bas, se souvient-il. On nous a fouillés, insultés, maltraités, puis photographiés et fichés comme terroristes. On nous a laissé croupir là-bas peut-être une bonne semaine dans des conditions insupportables. Puis pour la plupart, ils nous ont relâchés. D'autres ont été expulsés vers l'Algérie ou bien transférés vers différentes prisons. Hossine dit n'avoir pas été surpris par le silence et l'indifférence de la majorité des Français. De toute façon, les CRS parisiens étaient, si l'on peut dire les choses ainsi, des enfants de cœur comparés aux paras envoyés en Algérie, tranche l'ancien militant du FLN, dont le père et le frère ont été torturés à plusieurs reprises par l'armée française. Dans ses propos, pourtant pas d'amertume ni de rancœur, mais toujours une grande dignité. Dans nos têtes, les choses étaient claires. Il nous fallait lutter jusqu'au bout pour l'indépendance de l'Algérie. Tout ce que nous faisions était dicté par cet objectif de l'indépendance vers lequel nous étions tendus. Être tabassé, tué même, nous importait peu. Cette répression était comme le prix à payer pour la liberté. D'une voix un peu étranglée, il évoque les nombreux locataires du foyer de travailleurs immigrés de Nanterre qui ne sont jamais revenus de ce 17 octobre 61. Après cette funeste journée, Hossine reste en France jusqu'en 63. C'est à Paris qu'il fête l'indépendance, aujourd'hui de son petit village de Kabylie. Il suit avec attention les soubresauts de cette France tiraillée entre oubli et mémoire. La France a mis 40 ans à reconnaître qu'il y a eu une guerre en Algérie, rappelle-t-il. Il n'y était question que, entre guillemets, d'événements. C'était cacher le soleil avec un tamis. Ne pas reconnaître cette guerre, c'était un peu de manière de ne pas reconnaître l'indépendance. Donc voilà pour ce témoignage. Maintenant, il y a différents films qui existent. Il y a du coup 17 octobre 61. Il y a aussi Ici, on noie les Algériens. Voilà, ces deux films docu qu'ont passé nos camarades de la Griffe là lundi soir. On vous invite à les regarder. Et puis, je voulais enchaîner du coup avec, en restant sur l'Algérie, avec un hommage du coup qui a été rendu le 14 octobre 2016 à l'anarchiste Sahil Mohamed. Personnage relativement connu du mouvement anarchiste des années 30-50, il se faisait appeler Sahil Mohamed. Sous son vrai nom de Sahil Mohand Amezian, on vient de lui rendre du coup un hommage public en Kabylie. Quelques dizaines d'habitantes et d'habitants de Tibane en Algérie, militants, politiques, syndicalistes et associatifs, ont participé donc ce vendredi 14 octobre 2016 à une journée commémorative initiée par les jeunes de l'association Tadardiv du village Taourirt pour rendre hommage à Mohamed Amezian Sahil Mohamed, 63 ans après sa disparition. Après avoir écouté les conférences des historiens, une visite a été rendue à la maison natale de Sahil Mohamed où une plaque commémorative a été apposée. Sa nièce avait fait le déplacement d'Alger. Le journal Liberté a fait un récit de la journée ainsi que le site web Beya News qui s'enflamme un peu en estimant que Sahil avait été enterré par l'histoire officielle algérienne. En réalité, Sahil Mohamed n'était jusqu'à ces dernières années connu que des historiens de l'anarchisme, car anarchiste et même communiste libertaire pour être exact, il était jusqu'au bout des ongles, c'était même un intransigeant du mouvement si l'on analyse son parcours et ses écrits. Militant de l'UA, plateformiste, syndiqué à la CGTSR, anarcho-syndicaliste, choix minoritaire parmi ses camarades, combattant volontaire en Espagne, militant FA après 45, dans la tendance Fontenis en 52-53. Il a certes lutté infatigablement contre le colonialisme depuis l'Hexagone où il était expatrié, mais est mort quelques mois avant l'insurrection de la Toussaint 54 et ne put donc prendre part à la lutte pour l'indépendance. Nul doute qu'il aurait été au premier rang avec les militantes et militants de la Fédération communiste libertaire ou ceux du mouvement libertaire nord-africain. Voilà, c'est un petit article trouvé sur le site d'AEL et écrit par Guillaume Davranche. Voilà,
on apprend des
assez
trucs,
bien, voilà.
Je ne suis pas du tout au courant de ça. Donc,
d'en parler aujourd'hui.
Voilà, très bien.
Je vais garder ce que j'avais. Vite fait, du coup, on fera la suite de lutte plus tard.
Vas-y, oui. J'ai dit la semaine dernière, je la mets sur mon oreille, je la fumerai la semaine prochaine.
Voilà. Ouais, juste un petit retour du coup.
C'est pas grave, c'est là pour.
On avait annoncé, du coup, il y a quelques émissions dans les annonces, une manif à Marseille, du coup, contre un local de l'Action française, donc c'était le 8 octobre dernier. Pour faire un petit retour sur ce que ça a donné, donc le rendez-vous donc, avait été appelé à 14h30 sur la plaine pour ensuite se diriger vers le local des petits fachos ouvert au 14 rue Navarin, avec entre parenthèses une petite indication, les deux portes de bois situées à droite de la porte d'entrée principale de l'immeuble. Depuis un peu plus d'un an, ils sont installés là-bas. Celui-ci avait déjà reçu une visite amicale de plus d'une centaine de personnes au cours du mouvement contre la loi travail ce printemps, qui avait détruit ses portes alors que l'AF avait fait venir ses membres de tout le pays. Ce 8 octobre, la situation est un peu différente. L'Action française appelle en effet à une réunion de rentrée, chose intolérable dans le quartier, duquel ils se prétendent représentants, quand bien même ils prennent régulièrement des seaux d'eau sur la gueule devant leur local. À l'instar de la fois précédente, la zone avait été militarisée par la police. Toutes les rues alentour étaient bloquées par des barrages et des fourgons, boucliers et casques en tête. Selon la Provence, 80 agents de la République vieillissante, et oui, selon leurs propres termes, étaient présents pour défendre les royalistes, ce sans quoi ils auraient été tout à fait incapables de survivre à la journée, dixit les antifas marseillais. Les plus de 300 personnes présentes ne sont pas faites pour autant laisser impressionner, et les rues du quartier de Lodi, où se trouve le local de l'Action française, ont entendu des slogans antifascistes résonner, le tout sous de nombreux applaudissements de gens attablés au bar ou regardant passer la manifestation depuis leur fenêtre. Donc voilà pour cette petite action. Voilà, partout où il y a des locaux fachos, il faut se mobiliser. On sait qu'à Lyon, il y a un nouveau local qui a tout ouvert. Par le GUD, et puis on en reparlera très bientôt de cette histoire-là. On va bientôt laisser la place à la lumière du frigo.
Absolument.
On vous rappelle juste du coup, pas les annonces, mais du coup plutôt les rendez-vous. Vous pouvez nous retrouver, donc on n'était pas là samedi, parce que du coup on était au rassemblement contre la répression en Turquie, puis après à la Part-Dieu en soutien aux femmes de ménage. Donc il n'y avait pas de permanence la semaine dernière, mais il y en a une ce samedi de 15h à 19h. Les cours pour les migrants et les migrantes sont toujours d'actualité. Ça se passe le lundi à 18h à la Plume Noire, au 8 rue Diderot. L'autre permanence le mercredi 17h-19h. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même radio. Voilà, pour Idée Noire. Et puis on va vous laisser avec le générique pour finir.
Et puis avec la lumière du frigo.
Et la lumière du frigo.
À la suite, et on vous dit une bonne semaine. Voilà. Ciao.
Salut.